Chapitre 4. Dans son incertitude du terrain offert à ses pas, Razumov se sentit troublé. Il tourna brusquement la tête et aperçut deux hommes de l'autre côté de la route. Décidés par le regard de Sofia Antonovna, ils traversèrent l'avenue et franchirent, l'un derrière l'autre, la petite porte qui flanquait la loge vide. Ils regardaient l'étranger avec curiosité, mais sans méfiance, car la blouse rouge constituait pour eux un signe éclatant de sécurité. Le premier, grave figure blême et glabre, double menton, ventre proéminent, qu'il semblait étaler avec satisfaction sous un pardessus fortement distendu, fit un signe de tête bref et détourna les yeux d'un air maussade. Son compagnon, qui avait un visage maigre, aux pommettes ardentes et des moustaches rousses de coupe militaire, sous la forte saillie d'un nez osseux, aborda au contraire Sofia Antonovna avec des paroles de chaleureux accueil. Très forte, mais inarticulée, sa voix résonnait comme un bourdonnement sourd. La révolutionnaire faisait montre d'une cordialité paisible. « Voici Razumov, » annonça-t-elle d'une voix claire. L'homme maigre fit un mouvement brusque. « Il va vouloir m'embrasser, » pensa notre héros, avec un recul marqué de tout l'être, mais sans que ses membres trop pesants lui permissent de bouger. Alarme vaine, d'ailleurs. Il avait affaire à une génération de conspirateurs qui ne s'embrassent plus sur les deux joues. Il leva un bras qui lui parut en plomb et laissa retomber sa main dans une paume largement ouverte. Chaude, osseuse et comme brûlée par la fièvre, cette main serra la sienne avec une étreinte ferme et expressive qui semblait dire « Entre nous, il n'y a pas besoin de parole ». L'homme avait de grands yeux très ouverts, dont Razumov crut voir un sourire tempérer la tristesse. « Voici Razumov !» répéta à voix haute Sofia Antonovna à l'intention du gros homme qui profilait à quelque distance la courbe de son ventre. Mais rien ne bougea. L'attitude des personnages, leurs paroles, leurs mouvements et leur immobilité même, tout semblait former une scène concertée, qui aboutit à cette conclusion, lancée sur un ton hargneux et risible par une petite voix de fossé et suraiguë. « Ah oui, Razumov, voici des mois que l'on ne nous parle que de M. Razumov. En ce qui me concerne, j'avoue que j'aurais préféré voir ici Aldine, au lieu de M. Razumov. » L'insistance criarde avec laquelle il lançait le nom de Razumov, M. Razumov, perçait les oreilles, ridicule comme le fossé d'un clown de cirque qui commence une histoire. Razumov en ressentit d'abord un étonnement auquel fit place une indignation soudaine. « Que signifie ceci ? » demanda-t-il d'un ton sévère. « Laissez donc, sottise, toujours le même !» fit Sofia Antonovna, manifestement vexée. Puis elle laissa tomber de ses lèvres, juste assez haut pour permettre à Razumov de l'entendre, le nom de Nekator. Les cris aigus du gros homme paraissaient sortir d'un ballon qu'il aurait porté sous son manteau. Sa lourde masse, ses mains pendantes et exsangues, ses grands pieds, ses énormes joues blêmes, les mèches pauvres de cheveux épars sous sa nuque grasse, fasciné Razumov, partagé entre l'horreur et l'ironie méprisante. Nikita, dit Nekator, nom qui prêtait de façon sinistre à l'allitération. Razumov avait entendu parler de cet homme. Comme de tant d'autres célébrités de la révolution militante, depuis qu'il avait franchi la frontière, comme de ses légendes, de ses histoires, de ses chroniques plus ou moins authentiques, auxquelles de temps à autre, un mot de demi-incrédulité donne l'essor. Oui, Razumov connaissait les exploits de Nekator. On lui attribuait plus de meurtres de gendarmes et de policiers qu'à tout autre révolutionnaire vivant, et on le chargeait des exécutions. Une feuille de papier, fixée sur la poitrine transpercée d'un espion notoire, et les lettres NN, pseudonyme même du meurtre, ce détail pittoresque d'un crime sensationnel avait paru dans les journaux, signaient son œuvre, par ordre du comité NN. C'était un coin de rideau levé pour frapper l'imagination d'un monde indifférent. On disait de lui qu'il avait fait d'innombrables voyages en Russie. Nekator des bureaucrates, des gouverneurs de province, des délateurs obscurs. Il vivait entre-temps, avait-on compté à Razumov, au bord du lac de Kom, avec une charmante femme dévouée à la cause et deux jeunes enfants. Mais comment cet être si grotesque que les chiens aboyaient à ses trousses pouvait-il vaquer à ses missions de mort et passer à travers les filets de la police? Quoi donc? Quoi donc? Grinçait la voix. Je ne suis que sincère. Tout le monde sait bien que c'est l'autre qui était l'esprit dirigeant. Alors, des deux, il aurait été préférable de le voir épargner, lui. Préférable et plus avantageux. Je ne suis pas un sentimental. Je dis ce que je pense. C'est assez naturel. Aiguë, aigre, grinçante, ses paroles sortaient sans un geste, sans un mouvement, avec l'acrimonie atroce et burlesque de la jalousie professionnelle. Cet homme, dont le surnom n'était qu'un à peu près sinistre, cet exécuteur des verdicts révolutionnaires, ce terrifiant NN, ressentait l'exaspération d'un ténor à la mode, devant l'attention accordée à l'exploit d'un amateur obscur. Sofia Antonovna haussa les épaules, tandis que le camarade à la martiale moustache rousse se précipitait vers Razumov avec des accents conciliants de sa grosse voix bourdonnante. Que le diable l'emporte! Et ici encore, dans un lieu quasi public. Mais vous voyez vous-même ce dont il s'agit. Sortie fantastique et absolument sans importance. Ne vous tourmentez pas, je vous en prie, cria Razumov avec un long éclat de rire. Cela n'en vaut pas la peine. L'autre, un instant interdit, le regardait, les pommettes brûlantes d'une rougeur fiévreuse. Puis il éclata de rire à son tour. Mais Razumov, dont l'hilarité céda tout à coup, fit un pas en avant, et d'une voix claire et incisive, malgré le tremblement des jambes qu'il pouvait à peine réprimer, « Cela suffit, commença-t-il, j'en ai assez. Je ne permettrai à personne. Je vois très bien où tendent toutes vos allusions. Faites vos enquêtes, cherchez, je vous mets au défi. Mais je ne veux pas vous servir de jouet. » Il avait déjà prononcé de semblables paroles, arrachées par d'autres suspicions. C'était un cercle infernal qui ramenait dans sa bouche cette protestation comme une nécessité fatale de son existence. Rien n'y pouvait faire, cependant. Il serait toujours le jouet de quelqu'un. La vie, heureusement, n'est pas éternelle. « Non, je ne supporterai pas cela !» cria-t-il, en frappant du poing dans la paume de sa main gauche. « Kirillo Sidorovitch, qu'est-ce qui vous prend ?» La révolutionnaire intervint avec autorité. Les trois personnages regardaient maintenant le jeune homme. Le tueur d'espions et de gendarmes s'était tourné vers lui et présentait en face son ventre énorme comme un bouclier. « Ne criez pas, il y a des gens qui passent !» fit Sofia Antonovna qui redoutait une explosion nouvelle. Un vapeur venu de Mont-Repos avait accosté au débarcadère situé en face de la porte, sans qu'aucun des quatre interlocuteurs eût entendu son sifflet enroué ou le battement de son hélice. Un petit groupe de voyageurs de la localité en était descendu, pour se disperser dans diverses directions. L'un d'eux, touriste précoce, que désignait à l'attention des culottes courtes et un étui à lorgnette en cuir fauve flambant neuf, s'attarda un instant. Il flairait quelque chose d'anormal dans le groupe de ces quatre personnes réunies près de la grille d'un parc retourné à l'état sauvage et d'un domaine en apparence inhabité. Ah, s'il avait pu deviner ce que lui avait fait rencontrer le hasard d'une banale promenade! Mais en homme bien élevé, il détourna les yeux et s'éloigna sur l'avenue à petits pas en quête d'un tramway. D'un geste, Sofia Antonovna avait congédié les deux hommes. « Laissez-moi faire !» Le bourdonnement de la voix inarticulée s'atténuait peu à peu, et les cris aigres, « Eh bien !» et puis prenaient dans le lointain un son de jouet grinçant. Ils laissaient Razumov à la révolutionnaire, dont ils avaient éprouvé en tant de circonstances la sûre expérience. Ses yeux se fixèrent tout de suite sur le jeune homme, comme pour pénétrer la raison profonde de son explosion de colère. Cette sortie devait avoir un sens. Il n'y a pas de révolutionnaire né. La vocation se manifeste de façon troublante, brutale comme un appel soudain, entraînant tout un cortège de doutes poignants, de violences, de revendications, et suscitant un état instable de l'esprit, jusqu'au jour où l'ardeur farouche d'une conviction parfaite amène l'apaisement final. La révolutionnaire avait connu, ou parfois seulement deviné, chez des séries de jeunes gens ou de jeunes femmes, des crises émotionnelles de ce genre. Mais ce Razumov lui faisait l'effet d'un égoïste quinteux. À vrai dire, il représentait un type spécial, unique même. Jamais elle n'avait rencontré personnalité qui l'intéressât et l'intrigât autant. « Prenez garde, Razumov, mon bon ami. Si vous continuez comme cela, vous deviendrez fou. » Plein de colère contre tout le monde et d'amertume contre vous-même, vous vous acharnez à chercher des sujets de torture. « C'est intolérable !» fit Razumov d'une voix haletante. « Vous admettrez qu'une telle attitude ne peut me laisser d'illusion. Tout cela n'est pas clair, ou plutôt seulement trop clair. » Il fit un geste de désespoir. Ce n'était pas le courage qui lui manquait. Les relents suffocants du mensonge l'avaient pris à la gorge et l'étouffaient. La pensée d'avoir à lutter éternellement dans cette atmosphère empoisonnée, sans l'espoir de puiser jamais la moindre force nouvelle dans une bouffée d'air pur. Un verre d'eau fraîche, voilà ce dont vous avez besoin. Et Sofia Antonovna jeta un coup d'œil vers la maison, par-dessus le parc. Mais elle secoua la tête et reporta son regard à travers les barreaux de la grille sur la placidité du lac débordant. Avec un haussement d'épaules à demi-ironique, elle devait renoncer, en face de cette abondance, au remède proposé. « C'est vous, ma chère âme, qui foncez tête baissée contre des ombres vaines. Qu'est-ce qui vous tourmente? Un remords, peut-être? C'est absurde. Vous ne pouviez pas aller vous livrer parce que l'on avait arrêté votre camarade. » Elle s'étendait en remontrant ce très sage. Il n'avait pas eu à se plaindre de sa réception. On discutait toujours, plus ou moins, les nouveaux venus. On voulait les bien connaître avant de les agréer. On n'avait jamais, à sa connaissance, témoigné du premier coup autant de confiance à nul autre qu'à lui. Bientôt, très tôt, plus tôt peut-être qu'il ne le croyait, on mettrait à l'épreuve son dévouement à la cause sacrée qui poursuivait l'écrasement de la famille. Razumov écoutait tranquillement. « Peut-être cherche-t-elle à endormir mes soupçons, » se disait-il. Pourtant, il est certain que ces gens-là, pour la plupart, sont des imbéciles. Il fit deux pas de côté et, croisant les bras sur sa poitrine, s'adossa à l'un des piliers de pierre de la grille. « Quant à ce qui reste obscur dans le sort de ce pauvre Aldine, » poursuivit Sofia Antonovna en détaillant lentement ses paroles, qui tombaient une à une sur Razumov comme des gouttes de plomb fondu, « personne n'a jamais insinué que vous vous soyez, par crainte ou négligence, conduit de façon répréhensible. D'ailleurs, je viens d'avoir à ce sujet certaines informations. » Razumov ne put s'empêcher de lever les yeux, et Sofia Antonovna hocha légèrement la tête. « Oui, vous vous souvenez de cette lettre de Pétersbourg dont je vous parlais tout à l'heure. » « La lettre ? Parfaitement. La lettre d'un touche-à-tout quelconque, qui relate mes faits et gestes d'un certain jour. » C'est assez écœurant, et notre police doit être fort édifiée en ouvrant des lettres aussi intéressantes, et aussi oiseuses. Oh, mon Dieu, non, la police ne met pas, aussi facilement que vous le croyez, la main sur notre correspondance. La lettre en question n'a quitté Pétersbourg qu'après la débâcle des glaces. Elle est partie par la Neva sur le premier bateau anglais du printemps. Il y a à bord un chauffeur, l'un des nôtres. Elle m'est arrivée par Hull. La fixité du regard morne de Razumov parut la surprendre. Elle s'arrêta un instant, puis reprit, beaucoup plus vite, « Il y a là de nos amis qui... Mais peu importe. Mon correspondant nous fait part d'un incident qu'il croit lié à l'arrestation de Aldine, et que j'allais vous conter quand ces deux hommes sont arrivés. » « Incident aussi, grommela Razumov. Incident de la plus charmante espèce, pour moi. » « Laissez donc cela, » cria Sofia Antonovna. Est-ce qu'on se soucie des aboiements de Nikita? Il n'est pas méchant, au fond. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous pourrez peut-être jeter un peu de lumière sur les faits. Il y avait à Pétersbourg une sorte de demi-paysan, un propriétaire de chevaux, venu en ville depuis bien des années pour servir de cocher à l'un de ses parents. Il avait fini par louer une ou deux voitures. Elle aurait pu s'épargner le léger effort de son geste. Attendez. Razumov ne songeait pas à l'interrompre. Il n'aurait pas pu, même au prix de sa vie, proférer une parole. La contraction des muscles de son visage avait été involontaire, simple mouvement de surface qui ne modifiait en rien son attitude d'attention maussade. « Ce n'était, paraît-il, pas tout à fait un homme de sa classe, » poursuivit-elle. « Mon informateur a causé avec plusieurs des gens de la maison, vous savez, une de ces énormes maisons de honte et de misère. » Sofia Antonovna n'avait pas besoin d'insister sur l'aspect de cette maison. Derrière elle, Razumov voyait clairement se dresser la masse sombre d'une bâtisse, estampés par les flocons de neige, et la lueur des fenêtres du restaurant, tapis en longues files graisseuses au ras du sol. L'ombre de cette nuit le poursuivait, et il la défiait avec rage et lassitude. Aldine, vous avait-il par hasard jamais parlé de cette maison ? Demanda anxieusement Sofia Antonovna. Oui. En faisant cet aveu, Razumov se demandait s'il tombait dans un piège. Mais c'était pour lui une telle humiliation de mentir à ces gens-là qu'il n'aurait probablement pas pu dire non. Il m'avait parlé un jour, poursuivit-il, en simulant un effort de mémoire, d'une maison de ce genre. Il allait y visiter les ouvriers. C'est bien cela. Sofia Antonovna triomphait. Son correspondant avait découvert la chose par hasard, en écoutant bavarder des gens de la maison, dont un ouvrier avec lequel il s'était lié occupait une chambre. Ils avaient donné le signalement exact de Aldine, qui apportait à leur misère des paroles de consolation et d'espoir. Ils venaient irrégulièrement, mais très souvent, et passaient de temps à autre une nuit dans cette demeure où ils couchaient, selon eux, dans une écurie ouverte sur la cour intérieure. Notez cela, Razumov, dans une écurie. Razumov avait écouté avec une attention passionnée, mais à demi ironique. Oui, dans la paille, c'était probablement de toute la maison l'endroit le plus propre. Sans doute, acquiesça la femme, avec le froncement marqué des sourcils, qui semblait de sinistre façon rapprocher ses yeux noirs. Il n'y a pas de bête qui puisse supporter la crasse et la misère, où tant d'êtres humains sont condamnés à souffrir en Russie. Le point le plus intéressant établi par mon correspondant, c'est la connaissance familière de Aldine et du paysan aux chevaux, individu insouciant, indépendant et libre, qui n'était guère aimé des autres habitants de la maison. On le soupçonnait d'avoir fait partie d'une bande de cambrioleurs dont certains avaient été arrêtés. Il ne les conduisait pourtant pas à ce moment-là, mais on l'accusait sous main d'avoir donné des renseignements à la police et... La femme s'interrompit tout à coup. « Et vous, avez-vous jamais entendu votre ami parler d'un certain Ziemnianitch ?» Razumov attendait ce nom et s'était préparé à la question. « Quand on me parlera de lui, j'avouerai, s'était-il dit. » Mais il prit son temps. Ziemnianitch, un paysan qui possédait un attelage de chevaux. « Oui, une fois. » Ziemnianitch, certainement. Ziemnianitch, l'homme aux chevaux. Comment ce nom avait-il pu sortir de ma mémoire? C'est au cours d'une de nos dernières conversations, ce qui veut dire, interrompit Sofia Antonovna, l'air très grave, ce qui veut dire, Razumov, que c'était peu avant, hein? Avant quoi? S'écria Razumov, en s'avançant vers la femme qui parut surprise mais ne recula point. Avant? Oh, naturellement, c'était avant. Comment aurait-ce pu être après? Quelques heures avant seulement. Et il en parlait avec estime? Avec enthousiasme. Les chevaux de Ziemnianitch, l'âme libre de Ziemnianitch. Razumov éprouvait une joie sauvage à proférer à voix haute ce nom qu'il n'avait encore jamais laissé sortir de ses lèvres. Et il fixait son regard ardent sur la femme dont l'expression d'attention passionnée le rappela à lui-même. Le regretté Aldine, fit-il en se contenant et en baissant les yeux, était porté à s'éprendre de certaines gens sur ce que j'appellerais des données insuffisantes. C'est bien cela, fit Sofia Antonovna en frappant des mains. Voilà qui pour moi est décisif. Les soupçons de mon correspondant ont été éveillés. Ah, votre correspondant, fit Razumov sur un ton d'ironie, à peine dissimulé. Quels soupçons? Éveillés par qui? Par ce Ziemnianitch? Un ivrogne, sans doute, un bavard, un hâbleur. Vous parlez comme si vous l'aviez connu. Razumov leva les yeux. Non, mais je connaissais Aldine. Sofia Antonovna baissa gravement la tête. Je comprends. Toutes vos paroles confirment pour moi les soupçons dont me fait part cette lettre si intéressante. On a trouvé un matin ce Ziemnianitch mort, pendu à un crochet de son écurie. Razumov éprouva une émotion profonde qu'il laissa paraître, et Sofia Antonovna observa vivement « Ah, vous commencez à voir !» Il ne voyait que trop. À la lueur d'une lanterne, projetant des rayons d'ombre dans une écurie souterraine, un corps pendait contre la muraille, vêtu d'une touloupe en peau de mouton et de longues bottes. Un capuchon aux pointes rabattues sur les yeux cachait le visage. Mais cela ne m'intéresse pas, pensait-il. Cela ne peut en rien modifier ma situation. Il n'a jamais su qui l'avait rossé. Il ne pouvait pas le savoir. Razumov regrettait pourtant la fin tragique du vieil amant de la bouteille et des femmes. « Oui, murmura-t-il, il y en a qui finissent ainsi. Quelle est votre impression, Sofia Antonovna ?» La révolutionnaire avait en réalité adopté tout simplement l'idée de son correspondant, qu'elle résuma d'un seul mot, le remords. Razumov ouvrit des yeux très grands. L'informateur de Sofia Antonovna, en écoutant des conversations et en tenant compte d'éléments divers, avait réussi à côtoyer la vérité de très près et à découvrir les relations d'Aldine et de Zemianitch. « C'est moi qui puis vous dire ce dont vous n'étiez pas certain. Votre ami avait conçu un plan de fuite, ou comptait du moins sortir de Pétersbourg après l'attentat. Peut-être n'avait-il pas d'autre dessein, et voulait-il pour le reste s'en remettre à la chance. Les chevaux de cet individu jouaient un rôle dans son projet. Ils sont arrivés à deviner la vérité, s'étonnait Razumov, tout en hochant la tête d'un air sagace. Oui, c'est possible, très possible. Mais la révolutionnaire était persuadée de ce qu'elle avançait. D'abord, on avait surpris entre Aldine et Zemianitch un fragment de conversation où il était question de chevaux. Puis les soupçons des habitants de la maison s'étaient éveillés en ne voyant plus revenir leur jeune monsieur. Ils ne connaissaient pas Aldine par son nom. Certains d'entre eux accusaient Zemianitch de connaître les raisons de cette absence, ce dont il se défendait avec exaspération. Mais le fait est que depuis la disparition de Aldine, il n'était plus le même. Il avait maigri et s'était assombri. Enfin, pendant une querelle avec une femme qu'il courtisait, querelle où presque tous les habitants de la maison semblaient avoir pris part, son principal adversaire, un colporteur taillé en Hercule, l'avait ouvertement accusé d'être un délateur et d'avoir mené notre jeune monsieur en Sibérie, comme il l'avait fait pour les cambrioleurs. Ses paroles avaient soulevé une rixe et l'on avait jeté Zemianitch en bas des escaliers. Sofia Antonovna tirait ses conclusions de l'histoire et accusait Zemianitch. Il avait pu, dans un bavardage d'ivrogne, faisant allusion à quelques courses précises, avoir été entendu par un espion des cabarets de bas étage, peut-être même du restaurant de sa maison. Ou bien, peut-être, s'agissait-il d'une véritable dénonciation, suivie de remords. Un homme de ce genre était capable de tout. On en parlait comme d'un vieil étourdi. Et s'il avait une fois eu maille à partir avec la police à propos de l'affaire des cambrioleurs, ce qui paraissait acquis, malgré ses dénégations, il devait être resté en relation avec quelques mouchards, toujours à l'affût des moindres bruits. Peut-être n'avait-on d'abord tenu aucun compte de ces racontars, jusqu'au jour où le misérable de paix avait été traité selon ses mérites. Ah, mais alors on s'était accroché à la plus petite piste, à la moindre information, et la police devait fatalement mettre la main sur Aldine. Sofia Antonovna étendit le bras. Fatalement. La fatalité, la chance. En proie à un étonnement silencieux, Razumov méditait sur la singulière vraisemblance de telle déduction si manifestement à son avantage. « Il est juste que nous fassions part à tous nos amis de ces conclusions, » reprit Sofia Antonovna, d'un ton calme et décidé. Elle avait reçu la lettre depuis 3 jours, mais n'avait pas écrit tout de suite à Pierre Ivanovitch, sachant devoir, en une occasion prochaine, rencontrer plusieurs militants réunis pour discuter un projet d'importance. « J'ai pensé donner plus de poids à mes paroles en produisant la lettre même, que j'ai maintenant dans la poche. » Vous pouvez deviner combien j'ai été heureuse de vous rencontrer. Elle ne m'offrira pas de me montrer la lettre, se disait Razumov. Certainement non. M'a-t-elle dit seulement tout ce qu'a découvert son correspondant? Malgré son grand désir de voir cette lettre, il sentait qu'il n'en devait pas parler. Mais dites-moi, je vous en prie, s'agissait-il donc là d'une sorte d'enquête? Non, non, protesta-t-elle. Vous voilà encore avec cette sensibilité qui vous rend stupide. Il n'y avait, comprenez-le, aucune piste à suivre pour une enquête, même si on y avait songé. La nuit totale. C'est la raison qui incitait certaines gens à vous accueillir avec prudence. Le hasard a tout fait, hasard singulier qui a mis mon informateur en rapport avec un ouvrier fourreur intelligent, habitant de cette maison de misère. C'est une coïncidence merveilleuse. Une personne pieuse, insinua Razumov avec un pâle sourire, prétendrait y voir la main de Dieu. C'est ainsi qu'aurait parlé mon pauvre père, répondit gravement Sofia Antonovna en baissant les yeux. Son Dieu ne l'a jamais aidé pourtant. Il y a longtemps que Dieu ne fait plus rien pour le peuple. En tout cas, la chose est arrangée. Tout ceci serait concluant, fit Razumov, avec un accent d'impartialité réfléchi, si l'on avait la certitude que le jeune monsieur de ces gens-là fut bien Victor Aldine. Mais avez-vous cette certitude? Oui, il n'y a pas d'erreur possible. Mon correspondant connaissait Aldine de vue aussi bien que vous-même, affirma la femme d'un ton péremptoire. C'est l'homme au nez rouge, sans aucun doute, se dit Razumov avec un renouveau d'inquiétude. Sa propre visite dans cette maudite maison avait-elle passé inaperçue? C'était à la rigueur possible, mais bien improbable. Une telle démarche devait fournir un aliment précieux au potin populaire que ce grand touche-à-tout avait été ramassé. Pourtant, la lettre ne paraissait y faire aucune allusion, à moins que la révolutionnaire n'en eût pas parlé encore. Mais pourquoi? Si le fait avait réellement échappé à la curiosité de ce démocrate famélique, si diaboliquement doué pour reconnaître les gens d'après une description, ce ne pouvait être qu'un répit temporaire. Il en serait bientôt avisé, se hâterait d'écrire une autre lettre, et alors? Toute sa haineuse insouciance, renforcée d'aigreur et de dédain, n'empêchait pas Razumov de trembler intérieurement. Elle le mettait à l'abri des craintes vulgaires, mais ne le défendait pas contre le dégoût que lui inspirait la surveillance de ces gens-là. C'était une sorte de terreur superstitieuse. Depuis qu'il sentait sa situation consolidée par leur folle erreur sur le compte de Ziemianitch, il éprouvait un intense besoin de sécurité totale. Il aurait voulu pouvoir s'abstenir de mensonges honteux et passer parmi eux comme l'ombre même de leurs crimes et de leurs folies, silencieux, attentif, impénétrable. Pouvait-il, dès maintenant, compter sur cette situation avantageuse? Allait-il la connaître bientôt ou n'en jouirait-il jamais? « Eh bien, Sofia Antonovna, fit-il sur un ton d'approbation réservé, où perçait une certaine sincérité, car il répugnait à la quitter, sans connaître le fond de sa pensée et sans poser la question redoutable. Eh bien, Sofia Antonovna, s'il en est ainsi... » « L'homme s'est fait justice à lui-même, observa-t-elle, comme si elle avait pensé tout haut. »« Quoi? Ah oui, le remords !» murmura Razumov avec un accent équivoque de mépris. « Ne vous faites pas méchant, Kirill Sidorovitch, parce que vous avez perdu un ami. » Il n'y avait plus aucune nuance de douceur dans la voix de Sofia Antonovna, mais l'éclat noir de ses yeux semblait pour un instant ne plus contempler de vision vengeresse. C'était un homme du peuple. L'âme des Russes simples n'est jamais tout à fait endurcie. C'est quelque chose de sentir cela. « Quelque chose de consolant ?» insinua Razumov sur un ton interrogateur. « Cessez de railler, » répliqua-t-elle violemment. Souvenez-vous, Razumov, que les femmes, les enfants et les révolutionnaires exècrent l'ironie, négation de tous les instincts généreux, de toute foi, de tout dévouement, de toute action. Ne raillez pas. Cessez de... Je ne sais pas comment cela se fait, mais il y a les moments où vous m'êtes odieux. » Elle détourna les yeux. Un silence apaisé tomba et se prolongea quelques instants, comme si toute l'électricité de la situation s'était dégagée dans cet éclair de passion. Razumov n'avait pas bronché. Tout à coup, elle posa le bout de ses doigts sur le bras du jeune homme. « Ne faites pas attention. »« Que m'importe, » répondit-il, d'un ton très calme. Il était fier de songer qu'elle ne pouvait rien lire sur son visage. Il se sentait vraiment adouci, apaisé, soulagé, ne fût-ce que pour un moment, d'une oppression obscure. Et tout à coup, il se demanda « Pourquoi, diable, suis-je allé dans cette maison ? » C'était une ineptie. Il éprouva à nouveau un dégoût profond. Sofia Antonovna s'attardait, bavardant sur un ton amical, avec des intentions manifestement conciliantes. Elle parlait toujours de la fameuse lettre et des divers détails minutieusement fournis par son informateur, qui n'avait jamais vu Ziemianitch. On avait enterré la victime du remords, plusieurs semaines avant qu'il n'eût commencé à fréquenter dans la maison. Cette maison était une pépinière de bons éléments révolutionnaires. En passant sur ce repère de la noire misère, l'esprit de l'héroïque Aldin y avait apporté une promesse de rédemption universelle, d'allègement de toutes les souffrances qui accablent l'humanité. Razumov écoutait sans entendre, rongé par son désir nouveau de totale sécurité, et par son espoir d'échapper aux mensonges dégradants qui lui paraissaient à certains moments impossibles à proférer. Non, il ne pouvait aiguiller la conversation vers le point qu'il désirait tant élucider. C'était impossible. Il regrettait de n'avoir pas forgé, à l'usage des réfugiés, une histoire plausible qui lui aurait permis d'avouer sa fatale visite dans la maison. Mais, en quittant la Russie, il ignorait que Zemianitch se fût pendu. Et comment prévoir d'ailleurs que l'informateur de cette femme dût tomber précisément sur ce bouge-là? Ce bouge-là entre tous les bouges qui attendaient de la révolution sociale leur destruction par la flamme purificatrice. Qui aurait pu le prévoir? Personne. C'est une prodigieuse, une diabolique surprise, songeait Razumov, avec le visage calme d'une supériorité impénétrable. Il faisait avec froideur des gestes d'assentiment, approuvait d'un « oui, certainement » les remarques de Sofia Antonovna sur la psychologie du peuple et ressentait un désir frénétique de lui fouiller la gorge avec les doigts pour en arracher un aveu quelconque. Puis, au dernier moment, comme ils allaient se séparer et qu'il se sentait déjà détendu, il entendit Sofia Antonovna faire allusion au sujet de son inquiétude. Il n'aurait guère su dire comment la chose se produisit, car son esprit en cet instant précis était bien loin. Ce fut sans doute une suite de regrets exprimés par Sofia Antonovna sur l'absurde illogisme du peuple. Ce Zemianitch, par exemple, bien que notoirement irréligieux, ne s'en était pas moins imaginé, pendant les dernières semaines de sa vie, avoir été battu par le diable. « Par le diable ? » répéta Razumov, comme s'il avait mal entendu. « Le diable lui-même, le diable en personne. » « Je conçois votre étonnement, Kirillo Sidorovitch. » Le soir même de l'arrestation du pauvre Aldin, un inconnu venu de bonne heure avait donné une effroyable raclée à Zemianitch, qu'il avait trouvé ivre-mort dans son écurie. Le corps du malheureux ne formait plus qu'une meurtrissure dont il se plaignait aux gens de la maison. « Mais vous, Sofia Antonovna, vous ne croyez pas à la visite du diable en personne. » « Et vous, » riposta-t-elle sèchement, en continuant entre ses dents, « non, certes, mais il y a ici-bas des hommes qui s'entendent mieux que des diables à faire un enfer de cette terre. » Razumov la regardait, contemplait le corps vigoureux, les cheveux blancs, le pli profond qui séparait les sourcils minces et le regard noir perdu dans le vague. Évidemment, si son attitude n'était pas le comble de la duplicité, elle ne faisait pas grand cas de cette histoire. Un jeune homme brun, expliqua-t-elle, que l'on n'avait encore jamais vu et qui n'était jamais revenu. Pourquoi souriez-vous, Razumov? Je m'étonne que le diable soit resté jeune après tant de siècles, répondit-il posément. Mais qui donc a pu le décrire, puisque la victime, à vous entendre, était ivre-morte à ce moment précis? Oh, c'est le gargotier, un jeune homme arrogant, au teint basané, vêtu d'un manteau d'étudiant, était entré à la hâte, avait demandé Zemianitch, l'avait rossé avec rage, et s'était éloigné au galop, laissant le tenancier paralysé de stupeur. Et lui, croit-il aussi que ce fut le diable? Je ne saurais vous le dire. Il se montre, paraît-il, très réservé sur ce sujet. Ces marchands d'alcool sont en général de parfaits coquins, et m'est avis qu'il en doit savoir plus que quiconque. « Eh bien, et vous, Sofia Antonovna ?» s'enquit Razumov d'un ton de profond intérêt. « Quelle est votre conclusion ?»« La vôtre, et celle de votre correspondant, qui se trouve sur les lieux. » »« Je suis d'accord avec lui. Il devait s'agir d'un limier de police déguisé. Comment trouver un autre individu pour battre aussi cruellement un homme sans défense ?» On peut admettre d'ailleurs que, suivant ce jour-là toutes les pistes, anciennes ou nouvelles, la police est jugée utile d'avoir Zemianitch sous la main pour un supplément d'enquête, pour une identification, que sais-je. Un misérable mouchard envoyé à sa recherche, et furieux de le trouver dans un tel état, lui brisa sur les côtes une fourche d'écurie. Plus tard, une fois le filet serré sur le gros gibier, on ne s'est plus soucié du paysan. Telles furent les dernières paroles de la révolutionnaire. Au cours de cette conversation, elle s'était fort approchée de la vérité, pour s'en éloigner encore et suivre la vraisemblance des pensées et des conclusions. Elle obéissait en cela à l'invincible nature de l'erreur humaine, simple regard jeté dans les profondeurs extrêmes de l'illusion personnelle. Razumov lui serra la main, quitta le parc, traversa la route et gagna l'embarcadère du bateau pour se pencher au-dessus du garde-fou. Il se sentait l'esprit en paix, pour la première fois depuis bien des jours, depuis cette nuit, la nuit. Sa conversation avec Sofia Antonovna lui avait donné la vision très nette d'un péril, au moment même où ce péril s'évanouissait. « J'aurais dû prévoir les doutes qui surgiraient dans l'esprit de ces gens-là, » pensait-il. Puis son attention fut captivée par une pierre dont il distinguait nettement au fond du lac la forme particulière, et il se mit à supputer la profondeur de l'eau à cet endroit. Mais bientôt il reprit le cours de ses pensées avec un sursaut de surprise devant cette preuve singulière d'une indifférence intempestive. « J'aurais dû d'emblée leur débiter des mensonges très détaillés, » se disait-il. Mais le dégoût mortel que lui inspirait cette seule idée suspendit pendant un temps appréciable le cours de sa rêverie. « Heureusement, tout cela est arrangé maintenant, » réfléchit-il après un instant, puis il reprit à mi-voix, avec un rire bref, « Grâce au diable !» Sa pensée vagabonde s'attacha ensuite à la fin de Zemljanich. L'interprétation de Sofia Antonovna, sans l'amuser précisément, ne laissait pas pourtant de lui paraître piquante. Il s'avouait qu'il n'aurait pas su, en eût-il été informé avant son départ de Russie, faire aussi bien servir ce suicide à ses desseins. Il devait à l'homme au nez rouge une obligation infinie pour sa patience et son ingéniosité. « Merveilleux psychologue, évidemment, » se dit-il avec ironie. Le remords. C'était la meilleure démonstration de l'aveuglement des vrais conspirateurs, de la subtilité stupide de ces gens obsédés par une idée fixe. Il s'agissait d'un drame d'amour, et non pas de conscience, ricanait Razumov. Une femme à qui le vieux faisait la cour. Un colporteur vigoureux, un rival évidemment, l'avait jeté au bas des escaliers. Et à 60 ans, pour l'éternel amoureux, c'était une humiliation difficile à digérer. Ce n'était pas un féministe de la même trempe que Pierre Ivanovitch. La consolation même de la bouteille pouvait se montrer insuffisante dans cette crise suprême. À cet âge, le nœud coulant restait le seul remède à une inextinguible passion. D'ailleurs, l'exaspération sauvage soulevée en lui par le mépris et les calomnies de la maison, et l'affolante impossibilité d'expliquer sa rosée mystérieuse, devait ajouter à l'amertume de son chagrin. « Le diable, tiens !» s'écria Razumov, avec vivacité, comme s'il venait de faire une découverte intéressante. Zemljanich a fini par sombrer dans le mysticisme. Il y a tant de vraies âmes russes qui finissent ainsi. C'est bien caractéristique. Il éprouvait de la pitié pour Zemljanich, pitié banale et impersonnelle, pitié que l'on peut ressentir pour une multitude inconsciente, pour une masse populaire contemplée de très haut, pour un peuple de fourmis rampant sur le chemin de la destinée. Il lui semblait que Zemljanich n'aurait pu agir autrement, et l'assurance méprisante de Sofia Antonovna, son idée d'un « limier de police », était, à sa façon, bien caractéristique aussi de la Russie. Mais ici, il ne s'agissait plus de tragédie. C'était la comédie des quiproquos. On aurait dit que le diable lui-même était venu se jouer d'eux tour à tour, de Razumov d'abord, puis de Zemljanich, et enfin de ses révolutionnaires. C'était bien, en effet, un jeu diabolique. Le jeune homme interrompit le cours de son monologue intérieur pour se railler lui-même. « Tiens, voici que je tombe moi aussi dans le mysticisme. » Il se sentait l'esprit plus libre que jamais. Il se retourna pour s'adosser commodément à la barrière. Tout cela, poursuivait-il en lui-même, s'arrange de merveilleuse façon. L'incertitude du sort de mon prétendu collègue ne ternit plus la gloire de l'exploit que l'on m'attribue. On en rend responsable le mystique Zemljanich. J'ai été servi par une chance incroyable. Plus besoin de mensonges. Je n'aurai qu'à écouter et qu'à empêcher mon mépris de l'emporter sur ma prudence. » Il soupira, croisa les bras, laissa son menton tomber sur sa poitrine et resta longtemps immobile. Puis tout à coup il se redressa, en sentant qu'il avait ce jour-là une importante besogne à accomplir. Il ne put se rappeler tout de suite de quoi il s'agissait, mais ne fit aucun effort de mémoire avec la confuse certitude de s'en souvenir bientôt. À peine avait-il fait vers la ville une centaine de pas qu'il ralentit le pas et resta presque sur place en apercevant un homme qui venait dans sa direction. C'était, sous les plis d'un manteau drapé et sous les larges bords du chapeau mou, une apparition pittoresque que l'on aurait cru voir par le gros bout d'une lorgnette. Il était impossible à Razumov d'éviter le petit homme, car nul chemin ne s'offrait à la retraite. « Encore un qui se rend à cette assemblée mystérieuse, » pensa-t-il. Sa conjecture était fondée, mais à l'inverse des autres révolutionnaires venus de loin, celui-là, il le connaissait. Il espérait néanmoins passer avec un simple salut, mais il ne put refuser la petite main maigre aux poignets velus et aux jointures saillantes qu'on lui tendait avec un geste amical. Elle sortait du manteau drapé à l'espagnol, un pan jeté sur l'épaule, porté malgré la chaleur relative du jour. « Et comment va Herr Razumov ?» Ces mots prononcés en allemand n'étaient que plus odieux à l'objet du salut cordial. Vu de près, le personnage faisait l'effet d'un homme en miniature, avec son front haut, découvert par le chapeau momentanément levé et la grande barbe poivre et sel déployée sur une poitrine bien proportionnée. Son nez fin et hardi surplombait une bouche mince, cachée dans la masse d'une moustache soyeuse. Ses traits accentués, ses membres vigoureux, malgré leur dimension réduite, donnaient une impression de délicatesse, sans le moindre signe de débilité. Seuls les yeux, bruns et taillés en amande, étaient trop grands, et l'excès du travail sous la lampe les avait injectés de sang. L'obscure célébrité du petit homme était bien connue de Razumov. Polyglotte, d'origine inconnue et de nationalité mal définie, anarchiste au tempérament pédant et forcené, à la stupéfiante capacité pour les invectives enflammées, il constituait une puissance d'arrière-plan, ce pamphlétaire violent, qui réclamait à grands cris la justice révolutionnaire, ce Julius Lespara, éditeur du Monde vivant, confident des conspirateurs, auteur d'articles et de manifestes sanguinaires, soupçonné d'être au courant de tous les complots. Lespara vivait au cœur de la vieille ville, dans une maison étroite et sombre, qui lui avait été offerte par un bourgeois naïf, admirateur de son éloquence humanitaire. Près de lui habitaient ses deux filles, qui le dominaient de la tête et des épaules, et un garçon maigriot de 6 ans, hautain de papier mâché, qui traînait dans les pièces obscures ses combinaisons de coton bleu et ses lourdes bottines. Était-ce l'enfant de l'une des deux filles, ou n'appartenait-il à aucune? Nul n'aurait pu le dire. Julius Lespara savait sans doute laquelle de ces dames, après une disparition fortuite de quelques années, était tranquillement revenue chez lui, en possession de ce rejeton. Mais avec une admirable pédanterie, il s'était abstenu d'exiger d'elle aucun détail, aucun, pas même le nom du père, parce que la maternité doit être une fonction anarchiste. Razumov avait été reçu 2 fois dans l'appartement, aux pièces sombres, situées au dernier étage de la maison. Les carreaux des fenêtres étaient poussiéreux. Il y avait sur le sol une véritable litière de balayure. Des verres de thé à demi-plein restaient oubliés sur les tables. Les deux filles de Lespara rôdaient silencieuses et énigmatiques, les yeux lourds de sommeil, sans corset, prenant, avec le désordre de leurs vêtements froissés et de leur manque de tenue, l'aspect de vieille poupée. Le grand mais obscur Julius, les pieds enroulés autour d'un tabouret à 3 pieds, se montrait toujours prêt à accueillir les visiteurs. La plume aussitôt posée, il pivotait pour montrer son front singulièrement haut et sa grande barbe austère. En dégringolant de son tabouret, il paraissait descendre des hauteurs de l'Olympe. Sa petite taille devenait plus frappante à côté de ses filles, des meubles, de tout visiteur de stature normale. Mais il quittait rarement son siège, et on le voyait plus rarement encore dans la rue en plein jour. Il avait fallu quelque affaire d'importance pour l'amener cet après-midi aussi loin de la ville. Il voulait évidemment faire preuve d'amabilité pour le jeune homme, dont l'arrivée avait fait sensation dans le monde des réfugiés politiques. Il demanda en russe cette fois, car il parlait le russe, comme il parlait 5 ou 6 autres langues d'Europe, sans distinction et sans vigueur, autrement que dans l'invective, Il demanda à Razumov s'il ne s'était pas encore fait inscrire à l'université. Et comme le jeune homme secouait négativement la tête, « Vous avez bien le temps, mais en attendant, n'allez-vous pas nous donner un article ?» Il ne comprenait pas que l'on puisse se refuser à écrire sur un sujet quelconque, social, économique, historique ou autre. Toute idée valait d'être traitée selon le bon esprit et en vue de la révolution sociale. L'un de ses amis de Londres venait justement d'entrer en relation avec les rédacteurs d'une revue aux idées avancées. « Nous devons être des éducateurs pour le monde entier, et développer la grande pensée de la liberté absolue et de la justice révolutionnaire. » Razumov grommela d'un ton bourru qu'il ne savait même pas l'anglais. « Écrivez en russe, nous ferons traduire votre article, ce ne sera pas une difficulté. Tenez, sans chercher bien loin, il y a Mademoiselle Aldine. Mes filles vont la voir quelquefois. » Puis, hochant la tête d'un air significatif, « Elle ne fait rien. Elle n'a jamais rien fait de sa vie. Elle serait tout à fait compétente, avec un peu d'aide. Écrivez seulement, il le faut, vous savez. Et maintenant, adieu pour l'instant. » Il leva le bras et poursuivit sa route. Razumov, adossé au mur bas, le regarda s'éloigner, cracha violemment et reprit sa marche en murmurant d'un ton de colère « Maudit juif !» Pure conjecture de sa part, Julius Lespara aurait pu être transylvain, turc, andalou ou citoyen des villes hanséatiques pour ce qu'il savait de lui. Mais cette histoire n'a rien à voir avec les Occidentaux, et je ferai remarquer à propos de cette exclamation que c'était la plus parfaite expression de haine et de mépris dont Razumov put user à ce moment-là. Il bouillait de rage, comme s'il avait subi une insulte grossière. Il marchait en aveugle, longeant instinctivement le quai qui bordait le port en miniature. Il se trouvait maintenant dans un jardin élégant et terne, dont les arbres abritaient des gens également ternes, assis sur des chaises. Tout à coup, sa fureur tomba, et il se vit au milieu d'un pont long et large. Il ralentit le pas. À sa droite, au-delà de jetées pareilles à des jouets d'enfants, il voyait l'encadrement des pentes vertes du petit lac, au pittoresque merveilleusement banal de carton-pâte, tandis que plus loin, l'eau immobile s'étalait comme une nappe brillante d'étain. Il détourna les yeux de ce spectacle destiné aux touristes et poursuivit lentement son chemin, les yeux au sol. Une ou deux personnes durent s'écarter devant lui et se retournèrent avec un regard de surprise devant la profondeur de sa méditation. L'insistance du célèbre journaliste révolutionnaire avait éveillé dans son esprit un écho singulier. Écrire, il fallait écrire. Mais oui, écrire, ce fut un éclair qui traversa son cerveau. Écrire, voilà ce qu'il avait décidé de faire, ce jour-là. Irrévocablement décidé, pour l'oublier entièrement ensuite. Cette incorrigible tendance à fuir les difficultés de sa situation était réellement dangereuse, et il s'en voulait sincèrement. Était-ce de sa part légèreté, faiblesse profonde ou crainte inconsciente? Est-ce que je reculerai? C'est impossible. Reculer maintenant serait pire qu'un suicide moral. Ce ne serait rien moins qu'une damnation morale, pensait-il. Se pourrait-il donc que j'aie une conscience conventionnelle? Mais il repoussa dédaigneusement une telle supposition et, arrêté au bord de la chaussée, se prépara à traverser la route et à suivre la large rue qui débouchait au bout du pont. Il n'avait d'autre raison d'ailleurs de s'y engager que de la trouver devant lui. Mais à ce moment, deux voitures et une lente charrette barrèrent son chemin, et il tourna brusquement à gauche pour suivre à nouveau le quai en tournant cette fois le dos au lac. « Serais-je donc malade ? » se demandait-il avec un doute anormal sur l'état de sa santé. Car en dehors d'une ou deux affections enfantines, il n'avait jamais connu la maladie. Mais c'était encore un danger possible. Pourtant, il semblait qu'on veillait sur lui de façon toute spéciale. « Si je croyais à une providence agissante, se disait Razumov d'un ton sarcastique, je verrais ici l'œuvre d'une main ironique. Trouver sur mon chemin un Julius Lespara sorti de terre, pourrait-on dire, pour me rappeler de façon expresse mon projet. « Écrivez, m'a-t-il conseillé. Il faut que j'écrive. Il le faut, en effet. J'écrirai, soyez-en sûr. J'écrirai certainement, et j'aurai dorénavant quelque chose à écrire. » Il s'exaltait au cours de ce monologue intérieur. Mais l'idée même d'écrire éveillait l'idée d'un endroit où écrire, d'un asile discret, de son logis naturellement. Pourtant, il éprouvait une répugnance à la pensée de l'effort nécessaire pour s'y rendre, et l'on aurait dit qu'il craignait de trouver une présence hostile entre les quatre murs qu'il exécrait. Et s'il prenait fantaisie à l'un de ces révolutionnaires de venir me voir pendant que j'écrirais, se disait-il. La seule idée d'une telle intrusion le faisait frissonner. Il pouvait bien fermer sa porte, ou prier le marchand de tabac du rez-de-chaussée, espèce de réfugié lui-même, de dire qu'il n'était pas chez lui. Mais ce n'était pas là d'heureuses précautions. Il sentait que sa vie ne devait pas donner prise au moindre soupçon, à la plus légère surprise. L'incident le plus futile, tel que le retard apporté à tirer son verrou, pouvait paraître suspect. « Je voudrais me trouver au milieu d'un champ, à des lieux de tout endroit habité, » pensait-il. Il avait, sans s'en rendre compte, tourné encore une fois à gauche et se vit tout à coup sur un nouveau pont. Beaucoup plus étroit que le précédent, ce pont, au lieu d'être tout droit, faisait une sorte de coude ou d'angle. Du sommet de cet angle partait un bras très court, menant vers un îlot hexagonal au sol couvert de gravier, dont les berges se revêtaient de pierres savamment disposées, avec un puéril souci d'élégance. Deux hauts peupliers et quelques autres arbres groupaient leur feuillage au-dessus du sol sombre et net. Ils abritaient des bancs de jardin et une statue en bronze de Jean-Jacques Rousseau assis sur son piédestal. En débouchant du pont, Razumov s'aperçut qu'à l'exception de la femme chargée du chalet de rafraîchissement, il allait se trouver seul sur l'îlot. Il y avait une sorte de simplicité enfantine, odieuse et naïve, dans ce lopin de terre désert qui devait son nom à Jean-Jacques Rousseau, quelque chose de prétentieux et de vieillot aussi. Le jeune homme demanda un verre de lait qu'il but d'un trait, debout. Il n'avait depuis le matin pris qu'une tasse de thé et s'éloignait d'un pas hésitant et las lorsqu'une pensée l'arrêta net. Il avait découvert ce qu'il cherchait. Si l'on pouvait, au sein d'une ville, trouver en plein air un coin de solitude, c'est bien ici qu'il fallait le chercher, sur cet îlot absurde où l'on avait aussi la faculté d'observer les rares promeneurs. Il revint vers un banc du jardin et s'y laissa tomber lourdement. C'était bien l'endroit où commençait la rédaction du rapport demandé. Il avait sur lui tout ce qu'il fallait. « Je viendrai toujours ici, » se dit-il, puis il se tint longuement immobile, sans rien voir et sans rien entendre, sans penser et presque sans vie. Le soleil déclinant plongeait déjà derrière les toits de la ville, allongeant par-dessus l'îlot l'ombre des maisons sur la surface du lac, lorsqu'il sortit de sa torpeur. Il prit un stylographe dans sa poche, ouvrit un petit cahier sur ses genoux et se mit à écrire rapidement, levant de temps en temps les yeux sur le tronçon de pont qui aboutissait à l'îlot. Mais c'était une peine inutile. Les gens qui passaient dans le lointain n'avaient pas un regard pour le jardin où l'effigie exilée de l'auteur du contrat social trônait dans l'immobilité sombre du bronze, au-dessus de la tête penchée de Razumov. Lorsqu'il eut achevé son griffonnage, le jeune homme arracha d'un mouvement brusque et presque convulsif les pages qu'il venait de noircir, puis remit plume et cahier dans sa poche avec une sorte de hâte fébrile. Mais il plia le léger paquet sur ses genoux avec une minutie rêveuse. Ceci fait, il se renversa sur son siège et resta immobile, les feuilles de papier dans la main gauche. Le crépuscule s'était assombri. Razumov se leva pour marcher lentement, en long et en large, sous les arbres. « Il est évident que je suis maintenant tout à fait à l'abri, » se disait-il. Son oreille fine décelait le faible murmure du courant contre la pointe de l'île, et il s'oubliait à écouter ce bruit avec attention. Mais même pour son ouïe exercée, le son était trop subtil. « Singulière occupation pour moi, » grommela-t-il, en s'avisant pourtant que c'était presque le seul bruit qu'il put écouter sans remords, par plaisir pour ainsi dire. Oui, le murmure de l'eau, la voix du vent, ces bruits totalement étrangers aux passions humaines. Tous les autres sons du monde venaient déposer leur souillure sur une âme solitaire. Telles étaient les pensées de M. Razumov. C'est de son âme, bien entendu, qu'il s'agissait, et il ne se servait pas du mot au sens théologique. Ce qu'il désignait ainsi, me semble-t-il, c'est cette partie de lui-même qui n'était pas son corps et que les feux de la terre mettaient particulièrement en péril. Et l'on peut bien admettre que dans le cas de M. Razumov, l'amertume de la solitude ne fut pas un phénomène tout à fait morbide.